quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Damien et vous écoutez l'émission L'œil carnivore sur le 105.4 de Radio Panique. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu spéciale car elle est composée de plusieurs enregistrements réalisés la semaine dernière. Il y aura d'abord une interview d'un collectif qui défend un cinéma associatif en plein cœur de Paris contre la rapacité d'un géant de l'entrepreneuriat social, le groupe SOS. Peut-être que vous connaissez, en tout cas on va en discuter avec eux. Puis, nous parlerons cinéma avec les films The Lighthouse et Les Garçons Sauvages. Donc, pour commencer, je vous propose une interview de Victor, Derek et Marine, qui sont membres de l'association Homme Cinéma. Cette association a été créée pour sauver le cinéma La Clé, dernier cinéma associatif qui se trouve au cœur de Paris, dans le quartier latin. Cette interview a été réalisée hier, le 19 février 2021, et on commence avec l'histoire de ce cinéma.
Alors, c'est une salle de quartier qui a été inaugurée en 1973 par un certain Claude Frankfurter, qui est toujours vivant à l'heure actuelle, mais du coup très très vieux. Bref, il y a une sorte d'âge d'or comme ça de cinéma de 73 à 81. Malheureusement, dans les années 80, c'est la crise des salles d'art et d'essai, une vraie crise économique concernant les salles de quartier.
Et pas, du seulement, coup, pas seulement des cinémas de quartier, d'ailleurs, de tous les cinémas, les salles, on a coupé les salles en morceaux, elles sont réduites. Les années 80 ont été très très dures pour les cinémas.
Ouais, et du coup, c'est un cinéma qui a été du coup tellement impacté qu'il était obligé de vendre son lieu. Et c'est intéressant parce que c'est un lieu très important pour Frankfurter. Il décrit ce cinéma dans un texte qu'il nous a envoyé vraiment comme son propre corps. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il est assez labyrinthique. On a l'impression d'être dans l'aventure intérieure de Joe Dante, où on passe voilà, d'une veine à tout d'un coup une antre que peut être un poumon, j'en sais rien. Enfin, c'est super intéressant. Bref, en 81, la seule chose à sauver le cinéma pour lui, c'est de le revendre à un comité d'entreprise de la Caisse d'épargne qui vit à ce moment-là politiquement un contexte très mouvementé socialement. Et c'est un peu une première pour un comité d'entreprise comme ça, c'est en gros de faire non pas investir dans un centre de loisirs, je ne sais pas moi, vers la Côte d'Azur par exemple, mais investir carrément intramuros à Paris pour un centre culturel. Du coup, c'est ce qui fait le cinéma et d'éviter d'être un parking ou un hôtel. C'est ce compromis. Alors, ça, à la base, il y avait 4 salles de cinéma. Du coup, y en a 2 qui sont sacrifiées, mais heureusement, il y en a 2 autres qui continuent. Sauf que voilà, c'est quand même une forme de privatisation, c'est des co-salariés de la Caisse d'épargne. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est un peu compliqué de gérer ce lieu-là qui demande énormément de dépenses. Donc, ils décident de faire une mise à disposition à une association dédiée à l'exploitation des films. Et là, il y a Sanvi Panou qui traînait par là, qui est quand même un cinéaste d'origine africaine et qui était aussi monté. Etc. Et du coup, il montait ici avec certainement une connaissance d'un salarié qui a proposé de faire du montage dans les locaux. Et Sanvi Panou, oui, par exemple, il est important. Il joue, par exemple, dans le film de Weekend de Jean-Luc Godard. Bref, lui, il a c'est quand même militant dans l'âme. Sanvi Panou, c'est qu'il veut, tout d'un coup, il voit l'opportunité de montrer, représenter le tiers cinéma, à savoir surtout le cinéma africain, mais aussi le cinéma d'Amérique du Sud ou aussi le cinéma asiatique avec par exemple le Vietnam, etc. Et donc il en a profité pour accueillir aussi des associations dédiées à des films fragilisés ou marginalisés qui n'étaient pas montrés dans les autres salles d'art et d'essai. Et c'est là où lui va vraiment singulariser ce cinéma par rapport aux autres. Et donc de 1990 à 2009, ça s'appelle Image d'ailleurs. Donc le cinéma d'accueil, ce sera Image d'ailleurs. Ça va être repris ensuite par une autre association de 2010 à 2018 jusqu'à la fermeture dite légale du cinéma. Ça s'appellera juste simplement le cinéma à la clé, et juste avant ça s'appelait L'usage du monde, mais je pense que le nom faisait pas très rêver, donc ça s'est assez rapidement transformé en cinéma à la clé. Voilà. Et ensuite le propriétaire, comme ils arrivaient pas, ils géraient toujours mal l'aspect centre culturel, donc privatisation du reste de l'espace qui étaient voilà, des sortes d'ateliers, des salles, des pièces comme ça, qui n'étaient pas très bien investies. Il décide de tout bazarder, tout vendre. Droit du propriétaire, normal. Sauf que, entre-temps, comme c'est un propriétaire mobile, le comité centre social et économique de la Caisse d'épargne, le problème, c'est que c'est tous les 4 ans, il y a des élections, c'est-à-dire que c'est des syndicats. Donc, il y en a qui sont majoritaires, d'autres minoritaires. Et là, pour la CGC, à ma connaissance, n'a jamais été majoritaire. Et en 2018, donc fermeture légale avril 2018, c'est la CGT qui trône. Juin 2018, c'est la CGC, avec évidemment la complicité de la CFDT, et c'est eux qui sont majoritaires. Et là, ça change un petit peu politiquement, énormément même, qui fait que ça va être très compliqué avec le dialogue qui va s'installer entre les salariés qui veulent reprendre le cinéma et ils combattent pendant plus d'un an pour essayer de reprendre ce cinéma. Évidemment, la CGC, clairement, ne veut pas d'eux, d'autant plus qu'à un moment donné, ils sont obligés d'abandonner par rapport à la promesse de vente que leur a proposé la CGC, mais de manière très sournoise, puisqu'il y a des clauses qui se sont rajoutées. Du coup, des investisseurs du côté des salariés n'ont pas pu, ils n'ont pas pu suivre, ils ont fait « non, c'est trop compliqué là ». Et comme par hasard, un projet émane de ça, c'est un projet de théâtre de Grand Boulevard, donc clairement, c'était pas du tout un cinéma qu'ils voulaient reconduire. Mmh. Parallèlement à ça, tout d'un coup, il y a, en tant qu'ancien salarié, il y a moi et d'autres des milieux des occupations précaires, on décide symboliquement d'occuper le cinéma justement pour remettre les feux sur le cinéma. Parce que pendant un an et demi, en gros, on n'en parlait plus du cinéma. Donc c'était oublié, c'était de l'histoire ancienne, plus tard tout le monde s'en foutait de ce cinéma. Et c'était D'accord. l'occupation visée à faire un coup d'état en fait médiatique pour le sortir de l'ombre et le sauver définitivement. Mais on en est toujours là, ça fait maintenant un an et demi qu'on occupe. Et malgré les feux sur le cinéma, voilà, c'est un combat très compliqué. Donc la Sosomum Cinéma a été créée vraiment pour l'occupation de ce cinéma et fédère mais vraiment énormément de monde, en tout cas énormément de qu'on appelle ça, de monde très différent, c'est-à-dire des professionnels du cinéma comme des amateurs, des riverains cinéphiles comme des étudiants. Enfin voilà, c'est vraiment et c'est pour ça que c'est un combat qui fédère énormément et qui est complexe, mais magnifiquement complexe, quoi. Parce que citoyen, bénévole, et pas du tout intéressé ou politiquement avec un axe en particulier, quoi.
Ok, ben chouette. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu faisais partie de ceux qui travaillaient déjà dans ce cinéma à la clé à l'époque où ça appartenait au comité d'entreprise. Et donc, tu décides d'occuper cet endroit-là, et c'est là que se crée le home cinéma, c'est ça? Ou comment, et que tu es rejoint par d'autres, je suppose, des gens comme Victor
Non, home cinéma, l'association, elle a été créée avant d'ouvrir le lieu, avant de l'occuper. Mmh. On a du coup ouvert le lieu en fin septembre 2019. Du coup, comme disait Direct, ça fait un an et demi qu'on occupe le lieu. Et là, c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a eu plusieurs collectifs de lieux qu'on dit intermédiaires ou aussi de collectifs artistiques, de collectifs de cinéma qui se sont tous retrouvés pour s'occuper de la programmation et de la gestion du lieu. C'est-à-dire qu'on D'accord. a vraiment, alors c'est vrai qu'on a un statut associatif, mais quelque part, on a un fonctionnement totalement avec une hiérarchie horizontale, pas du tout pyramidale. Mm-hmm. C'est-à-dire que la programmation, elle est faite collectivement, comme le fonctionnement aussi interne dans le lieu.
Oui, après, c'est le principe de l'autogestion, je suppose.
Mais peut-être oui, pour revenir à ta question, je crois que c'est ça que tu demandais, c'est l'association, elle a été créée aussi.
Juste avant.
Non, mais c'est par rapport au juridique surtout.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Elle a été créée légèrement avant l'occupation, c'était pour protéger les occupants pour la question de la procédure. C'est-à-dire que on est obligé d'y avoir des assignés sur une procédure. Mm-hmm. Et du coup, s'il y a une association, et ben ça juridiquement on peut déplacer la problématique sur l'association et les protéger
individuellement. Et pas sur vous directement, parce que là, ça posait d'autres soucis et d'autres responsabilités légales qui devenaient compliquées à gérer. Ok.
Donc c'est vraiment une occupation et que c'est pas des personnes qui occupent un lieu, c'est vraiment la structure associative.
D'accord. Et donc, là, quand vous avez pris le lieu, vous avez voulu en refaire un objet de cinéma, en proposant, je suppose, du cinéma, mais aussi en en faisant un lieu de création, ou comment ça se passait Est-ce que c'était juste un lieu de projection, ou est-ce que c'était aussi un lieu où on pouvait créer du cinéma, où on pouvait présenter ses propres créations, etc.
À la base, c'est un centre culturel. En fait, le cinéma, il y a deux salles de projection, comme disait Derek, mais il y a 600 mètres carrés. En fait, il y a vraiment un lieu qui est très, très grand, assez labyrinthique d'ailleurs, Et l'idée, c'est tout de suite de se dire bah, comment on va se servir du lieu, comment, qu'est-ce que, tout ce qu'on pourrait faire dans le lieu.
Alors, oui, parce que 600 mètres carrés, parce que pour préciser à ceux qui ne connaissent pas le projet, vous êtes en plein cœur de Paris, je crois, c'est ça. Hein. Donc ouais, 600 mètres en
quartier latin.
Quartier latin, 600 mètres carrés en plein cœur, quartier latin, etc. C'est quelque chose de prisé quand même. Et il y a moyen de faire des choses. Bah voilà, il y a du monde et il y a moyen de faire des choses avec ces 600 mètres carrés, quoi. Du point de vue associatif et créatif, quoi.
Oui, mais alors le truc qui est intéressant, c'est qu'à Paris, tout le milieu vivant, art vivant, littéralement, se fait de plus en plus déplacer à la périphérie de Paris. Et là, nous, on a fait involontairement, parce que nous, c'était juste sauver un cinéma au départ, on a involontairement contredit cette politique d'extérioriser les artistes en dehors de la ville ou en tout cas proche banlieue. Et là, on revient carrément au centre de Paris, là où il y a une désertion totale de l'art vivant et aux dépens en plus des riverains qui, au bout d'un moment, perdent leur petit théâtre comme le théâtre de la Vieille Grille à côté ou certaines librairies très importantes. Et donc, on perd l'identité même du quartier latin. Et quelque part, par la force des choses, nous, on rejoint finalement une histoire aussi du quartier latin, mais aussi de Paris, quoi, par rapport à mes 60, etc. Et ça a réactivé. Mais indirectement de notre volonté, hein. Ça a réactivé voilà une sorte de soulèvement comme ça socio-culturel qui a été très fort et dont finalement on a bénéficié. Et aujourd'hui, c'est plus un combat local qu'on mène, c'est carrément un combat général social et politique et culturel. Quoi, voilà.
Oui, et puis je rebondis sur ce que dit du coup Derek, c'est que il y a aussi Paris 3 qui est la fac de cinéma juste à côté. Du cinéma La Clé qui est en train de s'arrêter et qui va se déplacer du côté de Nation, donc aussi un peu plus éloigné et toujours du centre de Paris qui est en train un peu comme il dit de devenir une ville un peu sanctuaire ou je sais pas comment dire mais en
musée
cas,
musée et sans vie en
musée,
fait
musée exactement
c'est ça. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout départ, c'était que de la projection de film. Hein. Attention, c'était vraiment que ça. D'accord, c'était obsession. Ouais. C'est l'obsession de tous les soirs, comme un battement de cœur, on projette un film différent.
C'était oui, tenir la ligne et faire vivre le lieu, quoi.
C'est ça. Et après, par la force des choses, c'est-à-dire, par exemple, au premier confinement, ben là, ça devient du plein air. C'est tout d'un coup, on ne projette plus à l'intérieur, mais à l'extérieur, parce qu'on n'a plus le droit d'ouvrir les salles, donc on va extérioriser la salle. Et voilà, ça devient le plein air. Et ensuite, par la force des choses, aussi à cause du confinement, on a été obligé de faire des pas de côté. Et donc là, ça nous a fait réfléchir sur, par exemple, notre projet de reprise pour qu'il soit encore plus viable. Pourquoi ne l'expérimentons-nous pas maintenant? Et là, c'est là où il y a le Studio 34 qui s'est créé, donc des ateliers à l'initiation de l'image et du son, entre autres. Il y a aussi l'accompagnement de projets de sélectionnés sur 9 mois. Et du coup, voilà, par la force des choses, ça devient un laboratoire vivant, mais c'est toujours pour le faire des pas de côté, pour contredire et contourner la répression culturelle ou la culture précarisée. Quoi.
D'accord. Et oui.
Ah, je vous ai dit. Et oui, il y a Alphonsine aussi.
Et Alphonsine aussi. Et il y a des ciné-tracts aussi. Alors, la fanzine, c'est hebdomadaire. Donc, c'est au lieu au deuxième confinement, c'est le fanzine qu'on a créé parce qu'on voulait pas reproduire le succès du plein air, d'autant que le temps est froid. Donc, enfin, à ce moment-là.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est surtout que c'est pas du tout la période. Et pour rebondir, en fait, sur le plein air aussi, l'idée, c'était de se dire, bon, les cinémas sont fermés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va sortir le projecteur et puis on va faire un film sur le mur juste à côté. Et cette idée, c'était vraiment de se servir de la totalité du bâtiment. Parce que, en fait, les parties, on s'en servait à annexe, donc il y a une grande salle polyvalente que vous pouvez pas voir, mais où où on pouvait boire des coups après la projection. Parce que la clé, c'est ça aussi. La clé, c'était que tous les soirs, on organisait une projection à prix libre. C'est vraiment très important pour nous, avec des débats et énormément d'intervenants et d'intervenantes. Donc, c'était des réalisateurs, des réalisatrices, mais ça peut être aussi des critiques, ça peut être aussi l'équipe du film, pour pouvoir un peu créer cette rencontre et ce débat, soit sur le sujet du film, soit sur sa fabrication. Et c'est vraiment important pour nous.
D'accord. Et donc, là, vous avez décidé de faire une radio, la radio La Clé, qui est une radio éphémère, hein, si j'ai bien saisi. Parce qu'il se passe quelque chose d'important pour le moment, là c'est quelques jours, au niveau entre la mairie qui devait préempter le lieu pour que vous puissiez légalement l'occuper, si j'ai bien compris, et une société vautour, on va l'appeler comme ça, même si elle se drape par des oripeaux sociaux et solidaires, etc. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, nous en dire plus là-dessus. Quelle est l'actualité là pour l'instant du lieu?
Du coup, aujourd'hui, pile poil, c'est la dernière date pour que la ville de Paris puisse préempter, à savoir racheter le cinéma dans cette période qui est très courte, d'un mois à deux, où le propriétaire vend, donc il fait une déclaration d'intention d'aliéner, et la ville de Paris peut mettre son veto pendant ce laps de temps. Et voilà, là, c'est le dernier jour, c'est la deadline, en gros, de ce laps de temps où elle peut racheter, le sortir de la spéculation immobilière. Et apparemment, elle n'a pas trop l'intention de le faire, puisque
Et pour la mairie de Paris, du coup, le projet du groupe SES, donc ce fameux groupe dont tu parlais, qui est un groupe de l'économie sociale et solidaire, qui a plus d'un milliard de chiffre d'affaires, etc., et 700 millions d'euros d'argent dans l'immobilier. Pour eux, le projet que propose le groupe SES est le même que celui que propose Home Cinema. C'est-à-dire que nous, notre projet, c'est quand même de créer un bien commun, de sortir vraiment le cinéma du marché de l'immobilier, d'en faire un lieu qui soit perpétuellement en mouvement, qui appartienne aux gens qui travaillent dans le lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la propriété d'usage. Donc, ceux qui travaillent dans le lieu, enfin, ceux qui participent au lieu, ont le droit de décision et collectivement. Enfin, c'est vraiment cette
idée. À l'heure où, justement, on a besoin de commun. c'est le grand mot du moment à l'heure actuelle, pour ne pas dire communiste, mais au moins commun, c'est-à-dire de gérer les communs et de créer des endroits, des lieux, soit sanctuarisés pour la nature, soit autogérés pour l'eau, l'électricité, soit pour des lieux culturels, comme l'expérience de la clé, par exemple.
Il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est Marine, du coup, qui fait partie aussi du collectif, parce qu'on est assez nombreux. Enfin, il y a 120 bénévoles qui travaillent, enfin, qui participent à cette aventure de la clé, et on est une trentaine à peu près dans le noyau dur, du coup, qui participent à tous les projets qu'on a pu citer.
Ça en fait du monde, effectivement.
Oui, alors on a oublié de parler du fonds de dotation. Ça, c'est quand même important et ça montre aussi la dimension cruelle et crapule du groupe SOS qui, fait genre nous sauve. Voilà, et elle continue ce discours de vouloir nous sauver alors qu'elle veut nous assimiler pour mieux nous dilapider de l'intérieur. Et la preuve, c'est qu'elle nous a empêché finalement de continuer ce fonds de dotation parce qu'on n'est pas crédible avec un fonds de dotation dès le moment où médiatiquement il y a un spéculateur qui arrive sur le marché qui dit je rachète le cinéma. Donc on va pas pouvoir convaincre, on pourra convaincre quiconque de nous donner des fonds pour le fonds de dotation, c'est pas possible.
Et vous en aviez eu. Donc de ce que j'ai compris, c'est que vous avez monté le projet pour que la mairie de Paris préempte le lieu. Vous avez monté, alors je ne sais pas de quelle façon, mais effectivement, vous avez voulu avoir des fonds. Vous en avez eu d'ailleurs, vous aviez quand même monté. Combien vous aviez réussi à avoir?
70 000 euros. Donc le fonds de dotation, pour expliquer un peu, l'idée c'est que c'est la structure juridique administrative pour pouvoir créer l'idée d'un bien commun. Un fonds de dotation, en fait, donc on fait appel à des donations, à du mécénat, mais les gens qui donnent, ce ne sont pas les propriétaires du bâtiment, ils n'ont pas des parts. Ceux qui sont propriétaires après du bâtiment, c'est-à-dire que le fonds de dotation met à disposition le bâtiment à du coup une association qui pourrait être Home Cinema, et c'est Home Cinema qui a la décision de faire des choses dans le bâtiment, de faire une salle de montage s'il veut faire une salle de montage, de décider de la programmation, de la communication, et le fonds de dotation est simplement là pour le bon respect global du lieu, c'est-à-dire que par exemple pour le cinéma de la clé, c'est de dire que c'est un cinéma associatif qui doit défendre des films fragilisés aujourd'hui par un système d'exploitation mercantile, des films émergents, des premiers films, des courts-métrages, des documentaires, et aussi de défendre des personnes qui sont dans le besoin de créer et qui n'ont pas forcément les moyens dans le milieu cinématographique. Donc, c'est juste dans cette idée globale, c'est une idée globale comme ça, mais le bien n'appartient pas non plus au fonds de dotation. Il appartient vraiment, c'est l'idée d'un bien commun. C'est-à-dire que n'importe qui peut intégrer Home Cinema demain, et participer aux programmations, participer aux projections, devenir bénévole et prendre la décision petit à petit de participer à toutes les réunions
l'organisation, etc. D'accord. Et le propriétaire du lien, parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend de. Mais on est dans une société où la propriété a un sens important. C'est la mairie de Paris dans ces cas-là, ou c'est qui finalement ou c'est l'association par délégation?
C'est le fonds de dotation qui est propriétaire, et le fonds de dotation, il est administré par un conseil d'administration. Il peut y avoir une personne, deux personnes, trois personnes, mais ces personnes ne sont pas non plus propriétaires. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le fonds de dotation, c'est que l'argent qui vient de donations individuelles, d'entreprises, peu importe, l'argent est intégré dans le fonds de dotation. Il y a des administrateurs qui gèrent ce fonds de dotation selon les mandats qui ont été inscrits, mais l'argent n'est pas lié au pouvoir.
D'accord.
Donc, les prises de décision, elles sont collectives, elles sont liées à une charte qui a été définie ensemble. Et donc, y a en soi, la définition de la propriété, elle n'est pas individuelle dans le fonds de dotation, et c'est ça qui nous intéresse.
C'est ça, cette idée que ce bien ne t'appartient pas. C'est pas parce que tu donnes 10 euros qu'il est à toi.
Non, mais je vois très bien, et comme ça, il est à tout le monde et à personne. On va dire ça comme
ça. C'est ça. L'idée, c'est un peu ça, mais il appartient surtout aux usagers. C'est l'idée de la propriété.
Oui, à partir de là, c'est effectivement les gens qui font vivre le lieu qui se retrouvent la possibilité de le faire, quoi. On va dire ça comme ça. Ok, et donc la mairie de Paris devait préempter, vous serez fixé à minuit, je suppose, si c'est fait ou pas fait, mais ça n'a pas l'air de prendre la direction de la préemption. Pourtant, vous avez été franchement soutenu par énormément de gens, aussi bien des personnalités que par la presse, etc.
Là, ça fait un an et demi que déjà on est très très suivi par la presse, on est très très soutenu aussi par les institutions du cinéma. Il y a la SRF, du coup, c'est la Société des réalisateurs et réalisatrices de films. Il y a le SDI, qui est le syndicat des distributeurs indépendants. Mais depuis un an, en fait, aussi, on travaille main dans la main avec eux pour leur dire on a besoin de cet écran, on a besoin de ces écrans-là pour défendre tous ces films-là dont on parle. Et on a eu énormément de réalisateurs qui sont venus aux projections, c'est-à-dire qu'il y a eu Michel Hazanavicius, Agnès Jaoui, mais il y a eu aussi Alain Cavalier, Claire Denis, Claire Simon. Il y a eu énormément de réalisateurs qui sont venus présenter leurs films et parler, et surtout aussi venir à la rencontre de ce lieu et qu'est-ce que raconte ce lieu aujourd'hui et quel symbole. Si vous voulez, en fait, depuis un an et demi, le lieu, il a dépassé un peu. Là, on a dépassé l'idée du cinéma à la clé. C'est devenu vraiment un symbole d'une culture en résistance, quoi.
Même les grands réels, tu as cité Claire Denis, quand elle est venue, elle a dit un truc qui est assez révélateur, c'est que ses premiers films qu'elle a réalisés, elle les a montrés ici. C'était le seul cinéma de Paris qui a voulu montrer des films qui étaient réalisés au Sénégal, dont les personnages principaux étaient sénégalais. Et aujourd'hui, Claire Denis, on se l'arrache et c'est difficile de la voir. Et ça, c'est hyper symbolique. C'est un cinéma qui ne doit pas disparaître, sinon c'est des réels comme Claire Denis et d'autres de son envergure aujourd'hui qui ne verront pas le jour.
Et le dernier un peu, parce qu'on a fait beaucoup de tribunes, etc. Le dernier texte là qui a été fait avec la SRF a été signé vraiment par beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'institutions qui disent non au groupe SOS, non, nous ne voulons pas être achetés par ces gros groupes, et oui à l'idée d'un bien commun, l'idée que ces lieux-là doivent appartenir à tout le monde.
Et donc là, pour parler entre guillemets un peu politique, c'est globalement la mairie de Paris était d'accord pour soutenir le lieu avant les élections communales. Ça a a priori changé, surtout en plus avec l'arrivée du groupe SOS qui tout d'un coup disait oui, moi je reprends le flambeau, exonérant à ce moment-là la mairie de quelque part devoir gérer en tout cas cette situation, quoi.
Non, elle délègue, on peut parler, la mairie a littéralement délégué ses responsabilités au groupe SOS en spéculant et en jouant sur l'idée que du caractère associatif entre guillemets du groupe SOS et le nôtre, voilà, puisque nous on a revendiqué, il fallait que c'était étant le dernier cinéma associatif, on voulait préserver aussi sa structure associative, et évidemment on avait sous-estimé ou même une méconnaissance avant l'occupation de qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que représentait le groupe SOS.
Mais c'est ça, aujourd'hui, il y en a qui se jouent de ce terme associatif, en fait. Le groupe SOS est une association, c'est ça qu'il faut juste savoir.
D'accord.
C'est que c'est ça aussi qui est assez amusant. Une association à 1 milliard de chiffre d'affaires.
Mais c'est préservé vraiment.
En très gros, le groupe SOS, c'est quoi? C'est des maisons de retraite, d'après ce que j'ai compris. C'est des orphelinats, c'est des...
Absolument tout. Ils font tous les domaines dans le social de façon primaire. Mais ils ont commencé par des centres d'accueil de toxicomanes. Ça, c'était vraiment le cœur de métier au début. Et ensuite, ils sont ouverts sur tout ce qui traite du social. Donc, des foyers d'accueil, des maisons de retraite, des EHPAD, mais des cliniques aussi, des hôpitaux... avec des spécialités diverses. Ils ont aussi des centres de rétention administrative, donc des CRA, qui ne sont pas forcément du social. En tout cas, c'est très problématique, puisqu'ils font des foyers d'accueil et des foyers d'enfermement.
C'est une sorte de Veolia du social, on va dire ça, alors.
Oui.
Le Veolia du social, oui, carrément.
Oui,
bah, de l'économie sociale et solidaire.
De l'économie sociale et solidaire, par exemple. Voilà. Pour ne parler que de leur dernier projet, ils vont dire, ça s'appelle 1000 cafés, 1001 cafés, je crois, et c'est l'idée de recréer des cafés dans des villages pour recréer le lien social, etc. Sur le papier, comme ça, on se dit « Oh, bah, ça a l'air
pourquoi
sympa
pas, oui. »
Et puis tout de suite, quand on cherche un peu, on se rend compte que c'est en partenariat avec Coca-Cola et qu'on se demande comment ça va se passer derrière. Et qu'à chaque fois qu'on gratte un peu sur ces projets, on se rend compte qu'il y a de la précarité, qu'il y a du détournement, etc., etc.
D'accord, d'accord. Donc, et effectivement, alors, vous n'avez pas... Oui ?
Pardon, non, mais c'était... Ce qui est intéressant aussi sur certaines de leurs associations, c'est qu'ils utilisent, par exemple, sur un café Place de la République à Paris, qui appartient au groupe SOS, il y a des postes qui sont c'est des postes qui sont destinés à des personnes en réinsertion, donc qui sortent de prison, qui n'ont jamais trouvé d'emploi ou qui ont arrêté leurs études avant 16 ans. Et en fait, c'est des postes qui sont aidés par l'État. Et donc, pour eux, c'est tout bénef parce qu'ils n'ont pas à investir de l'argent, en tout cas à 100% du salaire. Mais il y a quand même un devoir d'apprentissage, en fait, quand on a des salariés aidés, en contrat aidé. Sauf qu'en fait, on se rend compte, mais concrètement sur place, que bah, ils bénéficient beaucoup de la subvention, mais qu'en échange, on n'est pas vraiment sûr qu'il y a un apprentissage qui se fait comme c'est censé être.
Globalement, donc, là, vous serez fixé ce soir, vous faites une radio éphémère. C'est quoi la prochaine étape
Ensuite, là, c'est la radio. On est à fond sur la radio. Il y a des discussions, des débats, il y a des concerts, des lives, des DJ sets, des reportages audio. Il y a des pièces théâtrales aussi, radiophoniques. Radiophoniques. Voilà, il y a plein de
bénévoles. Mais après, voilà, soit on prolongera la radio un peu plus tard, mais c'est surtout aussi, ce qu'on va faire, c'est continuer le fanzine hebdomadaire, c'est quand même une fois par semaine. C'est l'accompagnement de projets créatifs qu'on a reçus en sélectionnant 6 d'entre eux sur une centaine. Donc, c'est les accompagner sur 9 mois pour qu'ils se fassent. Enfin, voilà, c'est que des pas de côté en attendant de réouvrir nos salles et de continuer à prix libre tous les jours nos séances.
D'accord, si la mairie ne préempte
le plus
pas...
aussi qu'on va entamer si jamais il n'y a pas de préemption, c'est on va pourrir le groupe SOS, on va pourrir la ville de Paris, et puis on va du coup être en mode, on va retourner à notre occupation illégale pour sauver ce satané cinéma de quartier. Quoi.
Donc résistance, quoi. La résistance, oui, donc c'est là. Après, si ce n'est pas possible via ça, vous repassez dans un mode où, de nouveau, vous redevenez squatteur en essayant de légaliser l'occupation, quoi.
Ouais, c'est ça, mais c'est une occupation de façon illégale, c'est plus qu'un squat. Hein. Donc, c'est vraiment une occupation illégale. Vas-y.
Ouais, on se compare plus à des ouvriers qui occupent une usine, en fait. Ça, c'est vraiment cette idée-là. Parce que, comme on l'a dit au début, c'est que quand même, dans le noyau noyau dur de la trentaine de personnes, il y a quand même des étudiants, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu du cinéma, qui sont réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, comme je disais, des programmateurs de festivals et de programmatrices. Vraiment, c'est des gens qui sont déjà très sensibilisés à la question de faire du cinéma aujourd'hui, quoi.
Ok. Et, Ok. Je suppose, j'en avais discuté avec Victor avant l'interview. Il y a le cinéma Nova qui a vécu un peu le même genre de choses à une époque. Alors évidemment, il est beaucoup plus ancien, puisqu'il date des fins des années 90. 90 pour les Français. Et le cinéma Nova qui, effectivement, a le même problème de confinement à l'heure actuelle et qui a décidé de transformer en fait son cinéma comme et en faire un musée, en fait. Et donc, on peut aller visiter maintenant le cinéma Nova et revoir des tranches de vie du cinéma Nova et d'ambiance, etc. Donc, j'ai trouvé ça l'idée assez chouette. Ça se passe toute la journée du samedi où sera diffusée d'ailleurs cette émission, mais et on peut réserver ses places en ligne pour visiter le cinéma Nova, et j'ai trouvé ça chouette comme principe, comme lieu.
Parce que c'est des copains, le cinéma Nova, qui nous ont vachement aidés pour le projet de reprise. On est énormément inspirés avec, entre autres, avec d'autres cinémas, et surtout on leur a fait une carte blanche qui était absolument géniale. Où grâce à eux, on a pu reprojeter aussi en 35 mm, parce que dans un des on a deux projecteurs dont un ne marche pas, mais l'autre marche très bien. Mmh. Et on avait pu passer dans leur carte blanche, par exemple, Les Cœurs Verts ou It's the Rich, voilà, sur les deux sur les quatre.
Comment ? Et la table ronde.
Et oui, et en plus, il y avait une table ronde où certains d'entre eux ont pu participer. Oui, avant la pandémie, on a même, accueilli pour dormir. Enfin, c'est vraiment des copains.
Quoi. Oui. Non, mais c'est un peu le même genre d'idée de cinéma que vous voulez faire, je suppose, de toute façon.
Ouais. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on dit que Paris, c'est la ville du cinéma, mais de cinéma associatif comme ça, il y en a partout dans toute l'Europe. Il y en a en dehors, il y en a à Marseille, il y a à Lille. Il n'y en a pas à Paris.
Soi-disant, c'est le de la culture. Voilà, c'est assez drôle.
D'accord. Ouais. Vous avez des choses à rajouter ou
Pour nos réseaux sociaux, suivez-nous parce qu'on a besoin de soutien, de visibilité. Parce que plus ce cinéma sera visible, plus peut-être il y aura une chance de le sauver. Voilà.
Le site internet pour retrouver un peu toute votre actualité, ça s'appelle comment ?
Bon, c'est très simple, c'est laclérevival.com.
Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais mis le lien dans le chat. Normalement, ouais, c'est ça. La Claire Revival, donc c'est là-dessus. Et là, on retrouve toutes vos actualités, tous les événements que vous faites, etc.
Et après, c'est très facile de nous suivre au jour le jour via le réseau Facebook, tout simplement.
Ouais, Twitter, Instagram.
On poste régulièrement, presque tous les jours, des cinétracts qui vulgarisent notre combat pour que celui qui débarque dans le combat ait une chance un peu de comprendre ce qui se passe, quoi. Mais de manière amusée, amusante, quoi.
Voilà. D'accord. Eh ben super. Bravo à vous en tout cas. On a besoin de ce genre d'initiative. On a besoin de gens qui se battent pour le commun. On a besoin, à l'heure actuelle, en plus avec le confinement, ça rajoute rien, mais on a besoin de gens qui se battent pour la création. Moi, je sais que je milite beaucoup pour la création de chacun. Ça veut dire, ok, il y a les grands réalisateurs. Ok, il y a des équipes, il y a des grands artistes qui arrivent à créer, bon, plus ou moins facilement, on est bien d'accord, mais tout le monde est capable finalement de créer aussi, et c'est important d'avoir des lieux où ça donne envie aux gens de créer, en fait, tout bêtement.
Je vais venir à la clé.
Vous êtes un peu loin, mais pourquoi pas. En tout cas, super, merci. Donc là, on avait autour de la table Victor, Derek, c'est ça, et
Marine,
voilà. Et ben merci à vous, merci à tous les 164 bénévoles qui tiennent la clé, c'est ça, hein, je crois, c'est d'après ce que j'ai entendu.
C'est fluctuant,
voilà.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu, et puis prochainement dans la lutte, on va dire ça. Allez.
Voilà. Salut.
Salut. Voilà, moi je trouve cette aventure passionnante et j'espère que finalement ils finiront par avoir gain de cause. Je vais maintenant vous passer une séquence enregistrée le mardi 16 février alors que l'équipe de L'Œil Carnivore recevait Yannick Martin et Steve Fabry du projet The Nice Talker et du groupe de métal Cercati. Avec eux, on a découvert l'univers du Night Stalker à travers leurs albums de musique, le livre, le jeu de rôle, le film et le comics. Rien que ça, ouais, rien que ça. Malheureusement, L'Œil Carnivore n'a qu'une heure d'antenne sur Radio Panique et donc je peux pas vous passer cette émission dans son intégralité. Donc je vous invite à venir sur le Twitch de L'Œil Carnivore où vous trouverez l'émission dans son intégralité. Vous trouverez le lien dans la description de l'émission sur le site de Radio Panique.
Dans l'extrait choisi, nous parlons avec nos invités du film The Lighthouse de Robert Eggers, avec Robert Pattinson et William Dafoe en grande forme, et du film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot. Et on se retrouve juste après.
Tell me, what's a timberman want with being a wiki?
Just looking to earn a living, just like any man. Starting new.
On the run. Keeping secrets, are you?
No, sir.
Why, just spill your beans. Weeks, 2 days, help me to recollect.
Voilà, 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 la bande-annonce de The Lighthouse. Et je vous avoue, quand je l'ai vu, quand j'ai vu que c'était Robert Pattinson et William Dafoe qui officiaient dans ce film, je me suis dit, ouh, ça a l'air chouette. Il y a moyen que ça soit un très bon
très
film.
Très intéressant.
Et surtout, moi, je vous avoue, alors vous devez être pareil que moi, c'est-à-dire que, voilà, on est en confinement, donc par la force des choses, on est coincé chez soi, donc par la force des choses, on regarde beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de séries, beaucoup de séries américaines, etc., et pas toujours de bonne qualité. Et surtout, du vrai cinéma. C'est-à-dire du cinéma avec des réalisateurs qui essayent de faire des choses, qui essayent d'écrire, d'inventer, de vous raconter vraiment des choses avec l'image, le son, etc. Ça devient rare, en fait, de simplement de se dire « oui, je vais me mettre devant mon écran, devant ma télé, devant mon home cinéma pour les plus, les plus chanceux, et je vais vraiment me regarder un bon film, un vrai bon film. » Et je vous avoue que ces derniers temps, j'avais vraiment envie de ça. Alors j'ai regardé des vieux films, pas des vieux films entre guillemets, mais des films des années 80, 90, je me suis retapé certains trucs. Et puis j'ai vu celui-là passer et je me suis dit que j'allais le voir. Alors, c'est un film, si je récupère mes notes, ce qui n'est pas forcément évident, c'est un deuxième film, en fait, du réalisateur Robert Eggers. Il avait fait The Witch, je ne sais pas si vous l'aviez vu, autour de la table.
Non,
ça ne vous dit rien. Apparemment, c'est un film qui a plu et déplu, ça veut dire que les gens s'attendent... C'est un film d'horreur, alors The Witch, c'est vraiment un film d'horreur d'époque qui est censé se passer, je crois, à peu près au 17e ou au 17e siècle. C'est un film d'horreur, mais un peu à l'ancienne, donc c'est plus du suspense et des situations gênantes. Et là, en fait, on est avec The Lighthouse vraiment dans. Je dirais pas que c'est un film d'horreur en tant que tel. On est dans un espèce de film psychologique où deux personnes, alors jouées par William Dafoe, qui est un acteur qu'on présente plus, qui est un acteur fantastique, et alors là, il prend vraiment sa dimension, je sais pas, sur les images, donc pour ceux qui nous voient, qui voient les images, sinon regardez la bande-annonce, hein, de toute façon, on voit bien que, voilà, il est vraiment habité, et pendant tout le film, on sent vraiment l'acteur, d'ailleurs, on sent qu'ils en ont chié, à mon avis, à certains moments, parce que c'est quand même... Il y a certaines scènes qui ne devaient vraiment pas être évidentes à jouer. Donc William Dafoe qui est excellent, et Robert Pattinson aussi, vraiment très bon. Donc Robert Pattinson, je pense que la plupart le connaissent, mais c'est celui qui avait joué notamment dans...
Twilight.
Tu l'as dit.
Mais oui, je l'ai dit. Mais donc là, il avait un peu, mais il a joué aussi dans le film de Cronenberg.
Disons il a joué dans
Les Ténèbres aussi.
Oui, oui, Tenet de Nolan.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, après justement, cette carrière, on va dire, de jeune premier, un peu nunuche et un peu on a envie de le baffer, il a réussi à sortir de là et à faire autre chose et à faire des films d'auteur dignes de ce nom. Et là, franchement, c'est pareil, il donne...
C'est un acteur qui peut jouer tout.
Et il donne quelque chose de très, très chouette dans ce film. Alors, je sais que toi, Steve, tu l'as vu. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, il m'a fait penser à un court-métrage que j'ai vu il y a plusieurs années, qui s'appelle Call of Cthulhu, par la Howard Philip Lovecraft Company. C'était fait également en noir et blanc, et la musique était aussi... le film était ponctué par la musique comme avant. Il y avait le même effort, et j'ai trouvé... Bah oui, horreur psychologique et tout ça, on fait vite le lien avec Lovecraft, je trouve. Et Call of Cthulhu m'avait fort marqué, et je trouve que la façon dont est filmé justement Lighthouse rappelle ce court-métrage. Enfin, moi, ça a été vraiment le court-métrage a été vraiment un point dans ma culture, et du coup, j'utilise comme point de comparaison souvent. Et j'ai eu l'impression que le réalisateur s'en est inspiré pour les plans, pour la musique, pour la façon d'orchestrer, la façon de filmer.
Excuse-moi, je pensais pas qu'il allait se relancer. J'étais en train de trifouiller les trucs. Excuse-moi, je t'ai coupé. Désolé.
Non, 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 pas de souci. Mais voilà, grosso modo.
Une bonne illustration.
J'ai ponctué ton propos.
j'ai eu ce retour un petit peu à du Lovecraftien sans vraiment l'assumer, enfin, sans vraiment le mettre en avant, l'horreur psychologique, quoi. Enfin, tel qu'on pouvait l'illustrer avant.
Alors, on n'a pas parlé réellement du sujet. En gros, c'est deux gardiens de phare, un ancien et un jeune qui arrive sur le métier. En tout cas, c'est son premier passage en phare. Et donc, à cette époque-là, en gros, les gars, ils restaient, alors je crois qu'à la base, c'est 4 semaines, là, tout seuls sur ce phare. Et donc, ils devaient s'entendre quelque part pour vivre ces 4 semaines. Dans des conditions qui sont quand même assez rudes, avec une machinerie qu'il faut tenir en état, parce que le phare, c'est quand même la vie pour tous les bateaux qui sont autour. Et évidemment, ça décolle. Moi, alors, pour faire une critique rapide de ce film-là, je trouve... J'ai eu du mal à être touché par les personnages. Alors, j'adore le film... Parce que j'adore le jeu des acteurs, le cadrage, etc. Mais il y a un truc qui m'a pas touché dans le destin des personnages, bizarrement. Et donc, je trouve qu'il manquait un affectif que j'ai pas eu avec. Mais je recommande vraiment ce film parce que c'est du cinéma, c'est un réalisateur qui essaye de faire du cinéma. Alors c'est très, très pédant ce que je dis, mais à l'heure actuelle, en fait, c'est ce que j'attendais, en fait, c'est ce que je cherchais. Je cherchais un réalisateur qui essaye un vrai film de cinéma où on essaye de me créer des choses. Donc voilà, moi je conseille vraiment. Ce film-là m'a fait penser à un autre film qui s'appelle Les Garçons Sauvages. Je ne sais pas si vous avez vu Les Garçons Sauvages, si ça vous dit quelque chose.
Les Garçons Sauvages, non.
Alors, Les Garçons Sauvages, c'est... Alors, BXL Geek, ah oui, c'est parce que ça, sur le chat, ça bouge. Donc, Les Garçons Sauvages, c'est un film réalisé par Bertrand Mandico, qui est sorti en 2017. Donc, qui est assez récent, en fait, mine de rien. Et c'est adapté, en fait, d'une nouvelle de William S. Burroughs. Donc, vous voyez le gars, déjà, vous savez déjà que vous allez partir sur quelque chose qui va être bien allumé. Et le titre, en fait, du bouquin de Burroughs, c'est « Les garçons sauvages, un livre des morts ». Et ça raconte l'histoire de 5 garçons de bonne famille, mais délinquants. En gros, ils ont violé et tué une femme. Et en gros, t'as...
Ça nous arrive tous un jour.
Et...
Allez.
Et en fait... Et il y a un capitaine de navire qui dit à leur famille, moi, je peux les rendre doux comme des agneaux. Et voilà, ça, c'est la base du film Les Garçons Sauvages. Je trouve Les Garçons Sauvages, parce que c'est pareil, bon, il y a l'élément de la mer, il y a l'élément du fantastique, il y a l'élément du mystique et de la transformation, parce que dans The Lighthouse, il y a une histoire de transformation, et c'est pour ça que tu parlais de Cthulhu notamment, mais il ne faut pas trop en dire. Dans Les Garçons Sauvages, pareil, il y a ça, et franchement, c'est un film fantastique. Je vous propose pour clore le débat, sauf si tu as un truc à rajouter, Steve.
Non. Du tout, si je peux juste me permettre, c'est dans le même dans ce genre d'horreur-là, il y a un film qui est passé hyper inaperçu, alors qu'il vaut le coup, c'est The Void aussi.
Gaspard Noé, mais je l'ai pas vu en fait, faudrait que je regarde. Ouais.
Alors, à voir et à revoir et à bouffer. Donc voilà.
Passé au bif il y a deux ans, je pense. Tu vas au bif, Steve?
Oui. J'ai réalisé la bande originale d'un film qui est passé là-bas. Et j'ai fait du sound design aussi pour des films de là-bas. Donc voilà ça.
Cool. Ok. Je vous propose de terminer avec la bande-annonce des Garçons Sauvages. Comme ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Et puis après, on enchaîne avec nos invités. Ça vous va, ça? On se retrouve juste après la bande-annonce. À tout de suite.
Je faisais partie d'une bande. Unis pour le meilleur et surtout pour le pire.
Lâchez-moi !
Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières.
Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. Non.
Capitaine !
Nulle part.
Capitaine. Qu'est-ce qui nous arrive, Tommy ?
Je sais pas. On se croyait immortel. Une hallucination prémonitoire. La plus belle des hallucinations. La plus belle des hallucinations.
Oh. Ouais.
Ça en jette, hein. Et franchement, le film... En fait, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est... Ok, tout n'est pas parfait, mais ça essaye de faire du cinéma. Voilà quoi.
Ça donne envie quand même.
Oui, mais non, franchement, regardez-le, allez vraiment, regardez-le. Et d'ailleurs, Stéphane, Dimension Brumeuse, je pense que ça devrait te plaire comme film. Vraiment, si tu ne l'as pas vu. D'ailleurs, Dimension Brumeuse disait que dans la chaîne YouTube Écran Large, ils reviennent sur... sur la carrière de Pattinson, et ils disent que Pattinson en Batman, c'est vraiment une bonne idée.
Oui, ça, j'approuve totalement. Je veux voir.
C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ouais, ça peut être intéressant. Ouais.
J'ai fait un parallèle avec Sylvester Stallone, si tu me permets. C'est qu'à l'époque, là, ils devaient faire soit des nanars, soit du porno pour pouvoir avoir leur nom et pouvoir avoir leurs entrées dans les films. Pattinson, il a pas eu de bol, il a fait un film de midinet, mais c'est le même parcours. Il a fallu qu'il se fasse un nom pour pouvoir avoir accès à ces films-là. C'est comme Kristen Stewart, hein, c'est pareil. Quand tu vois les films qu'elle fait, les films d'auteur qu'elle fait aussi, il y a eu un film en 2020, début 2020, qui est sorti très discrètement, qui était bien, c'était Underwater avec elle, je le conseille. Pour rester dans le mythe.
Voilà.
J'ai du mal avec Twilight, mais je l'attends en Batman.
Ah parce... Voilà. Ok. Eh bien, chouette. Eh ben, je propose une petite intro qu'on s'est choisie tout à l'heure. Hein. Et puis, on attaque avec vous, les gars. Ça va? Alors, je ne suis pas encore complètement à jour.
Je me souviens des cris. Je me souviens du chaos. Je me souviens de la douleur. Je me souviens du sang. Je me souviens des combats. Mais ici, tout est différent. Un goût de cendre. Des images cauchemardesques. Il n'y a pas de doute, je suis sur son territoire. Chaque pas est une victoire. Ils tenteront de m'arrêter. Mais je continuerai d'avancer. Je libérerai ce qui ne lui appartient pas. Peu importe le coût. Porte le prix.
Et voilà, voilà.
Peu importe le coût, peu importe le prix.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Radio Panique de nous accueillir sur son antenne, à Bad Geek d'héberger nos podcasts. Et si vous voulez retrouver tous nos lives, cherchez L'œil carnivore sur Facebook ou sur Twitch. Vous tapez avec vos petites mimines sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez sans aucun problème différents endroits. On a un Facebook, un Twitch et on a aussi même un YouTube depuis pas très longtemps, qu'il va falloir que j'alimente d'ailleurs. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous laisse pour finir cette émission avec le morceau Sharkman de Sorg and Napoleon Maddox, un morceau que j'aime beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Yeah. You know, it's too painful for some people to look it straight and see it right, you know. But it's happening anyway. It's been happening. Here with that big knife though, to cut it out. Like a sharp man, to take the dark man, for the gold and stuff, right? Stole all the stuff, like sharp men. The lost lands, reteaching to the bought man to see the laws of the boss man. It's God's hands, but it's fugazi like a plastic diamond. And you all fuck aloud the wrong tree, my friend. If you think war and religion ain't tied in, your soul is a battleground, your brain the watchtower. Protect your fortress, understand your power. It's your hour to break the chain. Bring the low high and the rough place plain. There's a little girl out there waiting on you. Your pledge to her or the red, white, and blue. Which will you choose? The blue blonde rules. Or the colorless, motherless, without no shoes. Is you cool? You can sleep with that. Is you a fool? Are you at peace with that? Not me, it makes me wanna clack. Like a sharp man. With the legalized targets and then pimp the land and leave the black man limp. Crack the whip if she smack the lips. Family split, keep the master rich. But tell us to forget like it was just a glitch. And some of us is willing, illin' in the matrix. Killing for the basics, behaving how they say. That's why I keep my mic ready for the razor cut. Hold my pen steady for the crew, no bluff. The mind of the African is poison to the system. Affecting every aspect of how you living. It's only right. Justice for the kidnappers popping off in the night like firecrackers. What we need, more action, less actors. More Panthers, less rappers. So they can't be catchers. Like a sharp man.